Radio Kapi.
Le journal, Jacques-Yves Molima.
Affrontement jeudi et vendredi entre deux groupes, les uns sympathisants du chef en exercice du groupement de Benachimungu dans les territoires de Miabi au Kasaï oriental et d'un prétendant au pouvoir. Bilan, plus de 20 personnes blessées et des dégâts matériels importants. Bras de fer entre la Fédération des entreprises du Congo FEC et l'Office congolais de contrôle OCC. Depuis une semaine à Bunia, le patronat de l'Ituri accuse l'OCC d'avoir érigé environ 65 barrières de tracasserie à l'intérieur de la province. Des allégations rejetées par les directeurs de l'OCC. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Eric Ndala. Il est ministre provincial de l'Intérieur dans la province du Haut-Katanga. Avec lui, nous évoquerons les retours de la criminalité ces derniers jours dans la ville de Lubumbashi, ainsi que la problématique de la présence des hommes en uniforme dans des sites miniers. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Kasaï oriental, trouble dans les territoires de Miabi. Plus de 20 personnes ont été blessées grièvement, des pare-brises de 3 véhicules brisés, une motocyclette incendiée et une autre emportée par des personnes non autrement identifiées. C'est le bilan des affrontements qui ont opposé jeudi et vendredi deux groupes. D'un côté, les sympathisants du chef en exercice du groupement de Benachimungu dans les territoires de Miabi et de l'autre, d'un prétendant au pouvoir qui était de passage dans cette entité. L'administrateur du territoire de Miabi signale la présence de quelques éléments de la police nationale congolaise sur place pour rétablir l'ordre. Des explications avec Esther Ndalafine.
L'administrateur du territoire de Miabi affirme que tout a commencé lorsque M. James Kabeya, prétendant au pouvoir de Benachimungu, a quitté la ville de Mbujimayi le vendredi avec un cortège de véhicules qui l'accompagnaient pour se rendre chez lui dans la localité de Boya en passant devant la résidence du chef de groupement de Benachimungu en exercice qui est le seul passage existant. Plusieurs autres sympathisants étaient sur la route pour l'accueillir. Bien avant d'arriver au niveau de la résidence du chef de groupement Didier Chileu, les sympathisants du prétendant au pouvoir ont trouvé plusieurs barricades pour les empêcher de poursuivre leur voyage. S'en est suivi les jets de pierres et les affrontements pour forcer le passage. Les sources sur place avancent le bilan provisoire d'une trentaine de personnes blessées grièvement. Ils sont en train d'être soignés au centre de santé de Benampanda. Il y a eu les vitres de 3 véhicules cassés, une moto incendiée et une autre emportée. L'administrateur du territoire indique que 8 personnes ont été blessées et 2 autres arrêtées par la police nationale congolaise pour raison d'enquête. Pendant ce temps, un dispositif sécuritaire est visible dans le groupement de Benachimungu. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En Ituri, un bras de fer s'observe depuis une semaine entre la Fédération des entreprises du Congo FEC et l'Office congolais de contrôle OCC qui est accusé d'avoir érigé environ 65 barrières de tracasserie à l'intérieur de la province. Cela en violation des textes légaux qui exigent à ce service de s'installer aux frontières. Le comité provincial de la FEC demande à l'OCC de démanteler ces barrières sous menace de suspendre dans 48 heures toutes les activités économiques en province. Le directeur de l'OCC rejette ces allégations contre son service qui, selon lui, vérifie plutôt les documents pour l'importation des marchandises en vue de lutter contre la fraude. Reportage de Isaac Remoriope, rendu ici par Pierrot et la Mégie.
Les opérateurs économiques de l'Ituri se sont réunis vendredi à Bunia en assemblée générale extraordinaire pour statuer sur ce qu'ils qualifient des tracasseries organisées par l'OCC. Ils s'appuient sur les textes légaux qui exigent de ces services de s'installer uniquement aux frontières plutôt qu'à l'intérieur de la province. Pour les commerçants, plus de 65 barrières érigées par l'OCC, notamment à toutes les entrées de Bunia, sont illégales et contraires aux instructions données par le chef de l'État lors du Conseil des ministres du 4 mars 2022. Pour la suppression des barrières illégales. Une mesure qui a été appliquée à Ituri, selon eux, par les gouverneurs lors de sa tournée en août dernier. Mais ils se disent surpris d'avoir reçu une lettre datant du 9 septembre dernier pour la réinstallation des barrières de l'OCC. Le comité provincial de la FEC s'insurge contre cette décision et menace de suspendre toutes ses activités. Le premier vice-président de la FEC, Lucien Moliri, a lu un extrait des dispositions prises.
La FEC donne 48 heures à l'OCC de quitter les barrières à l'intérieur de la province. À défaut pour l'OCC de le faire, la FEC se réserve le droit de fermer magasins et stations-service en guise de protestation.
Le directeur provincial de l'OCC déclare que son service ne dispose d'aucune barrière. Il reconnaît avoir heures plus tôt lancé ses agents aux barrières légales du gouvernement pour vérifier les documents des marchandises importées en vue de lutte contre la fraude. Signalons que le gouverneur a réuni vendredi dans la soirée les deux parties pour décanter cette crise.
Dans la province du Maniema, la société civile Force Vive demande aux autorités du Conseil supérieur de la magistrature de considérer la marche organisée par certains militants de l'UDPS Tshisekedi le lundi 12 septembre dernier, demandant le départ du premier président de la cour d'appel du Maniema et l'avocat général faisant intérim du procureur général de cette même cour, de non-événement sur toutes les lignes. Selon son président, cette marche n'est pas quelque chose qui engage la population du Maniema. Maître Stéphane Kamundala parle au micro de Florence Kizalunga.
Il s'agit là de certains membres de l'UDPS qui ont pu exprimer leur message, malheureusement dont le contenu a raté la cible, étant donné que les revendications qui sont reprises dans ces mémos ne concernent ni de près ni de loin les magistrats civils qui travaillent dans les juridictions civiles de la province du Maniema. Il vous souviendra que le Maniema a plusieurs juridictions qui restent inopérationnelles, et le fait est de commencer à attaquer le premier président comme l'avocat général qui n'a même pas 3 mois depuis qu'il a commencé à occuper ses fonctions, c'est rater la cible, étant donné qu'on veut travailler ou exprimer les choses par les règlements de compte ou l'instrumentalisation. C'est pourquoi la société civile Force Vive du Maniema demande aux autorités nationales, principalement celles qui gèrent les conseils supérieurs de la magistrature, de passer outre ces messages qui, du reste, n'est que l'émanation d'une instrumentalisation. Le vrai problème restant politique et ailleurs est qu'une manière d'étouffer les réalités qui peuvent être mises à nu par la présence des autorités judiciaires que nous avons.
On retourne en Ituri. Le Fonds social de la République a remis vendredi à Bounia 29 infrastructures scolaires et sanitaires et des puits de forage d'eau aux bénéficiaires dans les différents quartiers de la ville. Selon la chef d'antenne de cette structure étatique, le coût total de ce projet financé par la Banque mondiale est d'environ 3 millions de dollars américains. L'objectif est d'améliorer les conditions de la population dans cette province affectée par la pandémie de coronavirus et les conflits armés. Isaac Remoyopé.
Au total, 14 bâtiments scolaires et 7 structures de santé sont construits par les Fonds social de la République. Tous ces ouvrages ont été équipés, notamment des bancs pour les écoles et des lits et des matériels nécessaires tels que les microscopes pour les structures sanitaires. Il y a également 8 puits d'eau aménagés. Ces projets sont exécutés dans les 24 quartiers de la ville de Bounia et dans 6 groupements à la périphérie de la ville selon les besoins exprimés par les communautés locales. La chef d'antenne du Fonds social de la République déclare que ces actions contribuent au bien-être des milliers d'habitants et au développement de la province affectée par la COVID-19 et les conflits armés. Fifi Bolunda.
Ça améliore les conditions d'accès à l'éducation des enfants, d'accès aux soins de santé aux populations. Et en ce qui concerne de l'eau, nous sommes à Bounia, nous avons de sérieux problèmes d'approvisionnement en eau potable et ça soulage suffisamment la population. Le projet STEP 2 amène vraiment à la stabilité, la résilience et ça aide la population à vivre mieux.
Signalons qu'il y a plus de 60 autres projets de construction sont en cours d'exécution, notamment dans les territoires d'Aru et de Djougou. Bounia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Et puis un exemple à suivre pour l'autodéveloppement à la base, c'est celui du quartier Kacha, situé à la périphérie de la ville de Bukavu, dans la commune de Bangira. Quelques originaires regroupés au sein du projet Famille Tujenge Kwetu Kacha viennent de construire 3 ponts en matériaux durables sur fond propre. Les ponts achevés ont été inaugurés hier par le ministre provincial des infrastructures. À la même occasion, le ministre a lancé officiellement les travaux du 4e pont encore en chantier et pour lequel il a promis l'appui du gouvernement du Sud qui vous pour faire avancer les travaux dont le devis est estimé à 30 000 dollars américains. Jean Kassami a fait le déplacement à Kacha. Voici son reportage.
La population de ce quartier enclavé de la ville de Bukavu n'avait jamais vu véhicule ni moto passer dans son entité et c'est depuis que la route et les ponts hérités de la colonisation se sont désagrégés. Quelques habitants se sont regroupés et ont réussi à lancer l'idée de s'auto-prendre en charge. Les bénéficiaires sont très contents. Pascal Safari.
Vraiment, les avantages sont légion, mais c'est d'abord le désenclavement. Ça va relier Nyabangere, Chiguri, Chikoni en général avec la ville. Ça va aussi nous permettre même de lutter contre l'insécurité, puisqu'il arrive à ce que les voleurs attaquent ici.
Des ponts ont été construits à la grande surprise des autorités invitées à l'inauguration. Le ministre provincial des infrastructures, Wenga Placide, a promis le soutien du gouvernement aux efforts que la population de Kasha venait de démontrer.
La population est en train d'exécuter les travaux qui devaient provenir du gouvernement provincial ainsi que du gouvernement national. Ce n'est que normal qu'on puisse les appuyer. Voilà pourquoi nous avons demandé, séance tenante, qu'on nous fasse un peu les états de besoin, pas seulement pour les ponts que nous venons de lancer, mais aussi pour les restes de ponts qui sont évalués à 3.
Et la qualité de l'ouvrage est rassurant, indique l'ingénieur qui conduit les travaux. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le vice-gouverneur du Tanganyika a lancé officiellement ce samedi la réhabilitation de 50 km d'une route de desserte agricole en terre battue dans le territoire de Kalemi. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sous le contrôle du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. Le financement test de la Banque mondiale à travers le projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac. Témoin de l'événement, Paulin Munanga.
Il s'agit du site 1 de l'axe Mamakasanga-Kiamankuku à près de 20 km de Kalemi Centre. D'après les experts, la réhabilitation de cette route s'est faite avec la méthode dite mécanisée. La population salue cette initiative. Pour elle, cette route est d'une importance capitale sur le plan économique. Deux habitants de la localité Mamakasanga donnent les avantages qu'offre cette route. Une fois réhabilitée, cette route va nous aider dans l'acheminement facile des produits agricoles jusqu'à Kalemi. À part l'agriculture, cette route offre aussi d'autres avantages. C'est notamment le développement de plusieurs villages. Nous, les motards, nous avons beaucoup de difficultés, surtout quand nous transportons des charges. Je suis très content pour cette action. Les cultivateurs sont aussi contents parce que les produits des champs seront vite acheminés et cela va beaucoup les aider. Signalons que le projet intégré de croissance agricole dans les grands lacs Pikagel a déjà financé la réhabilitation d'une autre route de desserte agricole.
La dégradation rapide et l'impraticabilité des routes prioritaires et secondaires de la province du Congo central font partie des contraintes qui freinent le développement de cette province. Ceci a été identifié par les commissions mises en place au cours d'un colloque organisé par le gouvernorat du Congo central. Avec comme thème « Développement du Congo central, atouts et contraintes », ces assises se sont déroulées du 14 au 16 septembre à l'Université Congo dans le territoire de Mbanzangungu. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement provincial concernant les infrastructures des transports routiers. Les détails avec Nana Plurichimambo.
Ces colloques sur le développement du Congo central a regroupé plus de 200 personnes parmi lesquelles les professeurs et assistants d'université, les représentants des opérateurs économiques et ceux de confession religieuse venant de Kinshasa, de l'administration provinciale ainsi que des territoires du Congo central. Durant 3 jours, les 4 commissions mises en place ont au travers des travaux des groupes identifié les problèmes prioritaires du Congo central dans différents secteurs, les atouts, les contraintes ainsi que les pistes et les solutions à même de développer le Congo central. Concernant les infrastructures de transport routier, ces rapports finaux établis par ces commissions rendus publics par le professeur Denis Nzita, président du comité scientifique de l'Université Congo, révèlent que la plupart des routes prioritaires et secondaires du Congo central, y compris les ouvrages d'art, sont à l'état d'impraticabilité. C'est ainsi que le manque d'interconnexion entre les territoires engendre comme retombée les difficultés d'évacuation des produits agricoles et l'acheminement des produits de première nécessité. Cela étant, ces commissions préconisent comme solution l'aménagement du nouveau tracé Matadibo-Mabanana ainsi que les rechargements et l'amélioration des tracés des routes existantes. À cela s'ajoute la création de nouveaux tracés pour assurer l'interconnexion entre le Congo central et Kinshasa en vue d'amoindrir la dépendance à la nationale numéro 1. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement provincial pour répondre à cette problématique, entre autres, les lancements du programme d'entretien, des modernisations et des reconstructions des infrastructures routières. La gestion optimale des stations de péage et pesage sur les routes du réseau prioritaire provincial afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement des travaux. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
À Bandundu, dans la province du Kwilu, la communauté musulmane Ahmadiyya a volé au secours hier samedi aux déplacés venant du territoire de Kwamout, fuyant les violences liées au conflit entre les peuples Teke et Yaka. En guise de son amour pour les personnes en détresse, cette communauté a remis à ces gens qui sont dépourvus de tout un lot de vivres afin de subvenir à leurs besoins. Irène Bouma.
C'est pour répondre à la recommandation de Allah qui leur demande de manifester l'amour du prochain envers les nécessités que ces membres de la communauté islamique Ahmadiyya de Bandundu ont visité samedi les déplacés de Kouamouk se trouvant au site du marché Malebo. Dans leur gibecière, ils leur ont apporté de l'assistance essentiellement constituée d'un lot de vivres, comme l'explique ici Non Ahmed Iwimi, missionnaire de la dite communauté Okwilu.
La communauté a préparé la viande de bœuf, on a préparé ça avec foufou. Nous sommes venus avec ça, accompagnés aussi de 10 sacs de foufou, plus 4 bidons de huile de palme pour assister de déplacer Teke et Bayaka. Notre slogan aussi, l'amour pour tous, haine pour personne. C'est pourquoi la communauté a l'envie d'aider ces gens.
Ce geste est un sujet de satisfaction de la part des bénéficiaires. L'une d'entre elles s'est exprimée en ces mots. Les mots nous manquent. Nous remercions nos frères musulmans pour cette assistance qu'ils nous ont apportée. Nous qui sommes en difficulté, que Dieu les bénisse. Au nom de la communauté islamique Ahmadiyya dans la province de Kwilu, sous la représentation de Maulana Farid Bati, Ahmed Iwimi demande aux autorités attitrées de rétablir la paix à Kouamouk afin que les déplacés puissent regagner leur milieu de vie habituelle. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un séisme de magnitude 7,2 est survenu ce dimanche au large de la côte est de Taïwan, selon l'Institut américain d'études géologiques, conduisant le Japon à diffuser une alerte tsunami. L'épicentre du tremblement de terre qui s'est produit peu après 14h44 local, donc 6h44 temps universel, a été localisé à environ 50 km au nord de la ville de Taitung, à une profondeur de 10 km, a précisé l'USGC, rapporte l'AFP.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Eric Ndala. Il est ministre provincial de l'Intérieur dans la province du Haut-Katanga. Avec lui, nous évoquons les retours de la criminalité ces derniers jours dans la ville de Lubumbashi, ainsi que la problématique de la présence des hommes en uniforme dans des sites miniers. Eric Ndala s'entretient ici avec Jean Ngando. Suivez.
Eric Ndala, bonjour.
Bonjour.
Nous avons remarqué qu'il y a quelques temps, il y a eu une baisse sensible des cas de criminalité. Mais ces derniers jours, dans certains quartiers, il y a davantage de bandits armés qui sèment la terreur et par moments tuent. Quelle est votre politique pour éradiquer ce phénomène qui met à mal la population de cette province?
Que nous sommes des amis sur terrain. Nous demandons à la population de dénoncer tous les hors la loi. Parce que ces bandits mangent avec nous, boivent avec nous, ce sont les amis. Nous demandons à la population de toujours dénoncer les hors la loi. Ça va beaucoup nous aider, nous, en tant que l'État, à infléchir la courbe de l'insécurité.
Et nous en sommes à ce qui s'est passé à Sakania, où on dit que vous avez arrêté arbitrairement un chef coutumier qui a été ligoté, maltraité. Qu'est-ce que vous reprochez à ce chef coutumier?
Ce n'est pas un chef coutumier, c'est un usurpateur. Parce que pour se prévaloir d'être chef coutumier, il faut passer par l'élection, il faut passer par l'intronisation et l'installation. Ce qui n'est pas le cas avec notre ami Makoleka. Le soi-disant chef était arrêté à Mopala, où nous sommes allés, et ça faisait 11 ans qu'il était en train d'usurper. Et comment est-ce que le village ou le groupement peut se développer alors que c'est parmi les objectifs du chef de l'État? Vous-même, vous connaissez le projet des 145 territoires. Donc comment est-ce que le groupement pouvait se développer avec ce genre d'attitude? Et nous l'avons interpellé. Nous, ce que nous faisons, c'est dans nos attributions et nous avons le soubassement. Nous avons agi comme l'État et ce n'est pas ces agitations qui vont nous bloquer à ne pas rendre un bon résultat près de la population haut-katangaise.
Mais monsieur le ministre, c'est vrai que vous les qualifiez d'usurpateurs. Un usurpateur n'a-t-il pas droit à un traitement digne que de prendre quelqu'un comme celui-là, le ligoter, le tabasser? Il ne pouvait pas être arrêté dignement et être amené au cachot sans problème?
Nous avons mené une mission en bonne et due forme et les ordres de mission sont là. Nous sommes allés avec les services de l'ANR, les affaires coutumières. Il y a les chefs coutumiers, membres de l'ANATC. Il y a aussi le cabinet du ministre. Le monsieur est là.
Il n'a pas été ligoté.
Il n'a jamais été ligoté. Parce qu'il est là, vous pouvez vous référer à lui. Je crois qu'il était important de nous contacter, nous, en tant que ministre de l'Intérieur, puiser l'information chez nous, que d'aller prendre des histoires trafiquées dans les réseaux sociaux.
Un autre problème, c'est la présence des hommes en uniforme dans les sites sites miniers. La société civile ainsi que plusieurs personnes avaient beaucoup salué la mesure qui avait été prise de les voir évacuer de ces sites miniers. 48 heures étaient données à ces hommes en uniforme. Fort malheureusement, ils sont toujours là. Est-ce à dire que cette décision a été prise précipitamment ou que vous avez des instructions qui vous interdisent, n'est-ce pas, de pouvoir aller jusqu'au fond?
On avait donné 48 heures délibérées volontairement. Et cette fois-ci, nous descendons, ça sera la force que nous allons appliquer. Donc, cette mesure est d'application. D'ici la fin de la semaine, nous allons débuter notre mission. Qu'on ne vous trompe pas, cette mesure est venue de la hiérarchie et elle est soutenue aussi par la hiérarchie. Nous allons mener cette mission et nous sommes dans l'obligation de restaurer l'autorité de l'État. Il faut savoir que aujourd'hui vous décriez l'insécurité, mais le plus des effectifs se trouvent dans des carrières minières. Et c'est comme ça que nous devons récupérer ces effectifs pour sécuriser la population katangaise.
Il y a combien de sites miniers où on retrouve les hommes en uniforme dans la province du Haut-Katanga?
C'est plus d'une centaine, hein, et nous avons identifié, nous, depuis notre bureau et nos enquêtes, nous savons quel site détient la PNC, quel site des FARDC. Nous avons tous ces détails, nous avons la cartographie et c'est le travail que nous étions en train d'abattre. Et maintenant, nous sommes à la fin. Il est question maintenant que nous puissions débuter la mission.
Et la police des mines dans tout ça, pourquoi ne joue-t-elle pas son rôle?
Cela sera décidé par la commission. Il y a déjà des résolutions que nous avons déjà prises au niveau de la commission que je ne vais pas quand même dire au micro et qui sera connu par après.
Oui, enlever les hommes en uniforme des sites miniers, c'est une chose, mais aussi sécuriser ces sites miniers parce que, bon, ce sont les investisseurs qui viennent et qui se voient envahis par des centaines, voire des milliers de creuseurs qui vont pour voler. Ces gens-là ont aussi besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine protection. Que faire dans ce cas?
Oui, il y a des pistes de solutions que nous avons déjà envisagées, qui seront mises en place. Et nous devons permettre aussi à l'État de générer des recettes, parce qu'il faut se dire la vérité. Ce qui s'est passé, ça ne profitait qu'à un groupe d'individus. C'est-à-dire que c'était une catégorie de responsables de l'armée et de la police qui percevaient pour leur compte, mais qui ne profitaient pas à l'État. Nous avons même des preuves, même des ordres d'émission où ils ont envoyé qui ne sont pas en bonne et due forme. Nous devons aider aussi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à atteindre ses objectifs. Parce que quand vous voyez les moyens que le gouverneur de la province Jacques Yabou est en train de débourser pour l'armée et la police, il est de droit que aussi la province puisse générer des recettes.
Eric Ndala, je vous remercie.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alain Goyi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Pierrot et la Mégie et la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci pour votre particulière attention.